VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Élection en RDC. L'Union africaine n'a pas dicté sa conduite à la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. C'est la réaction aujourd'hui de Lambert Mende, des porte-parole du gouvernement congolais, au lendemain de l'appel de l'Union africaine à suspendre la proclamation des résultats des élections. Le point avec Idrissa Senoudia.
La Cour est indépendante et de nous et de l'Union africaine, a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Je ne pense pas qu'il appartienne au gouvernement ou même à l'Union africaine de dire à la Cour ce qu'elle doit faire. L'UA a publié jeudi soir, à l'issue d'une réunion à Addis Abeba de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, un communiqué dans lequel elle émet des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires tels qu'ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. En conséquence, les chefs d'État et de gouvernement demandent la suspension de la proclamation des résultats définitifs des élections. L'Union africaine a aussi annoncé l'envoi lundi d'une délégation comprenant le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, et le président de l'UA, le chef de l'État rwandais, Paul Kagame. Selon les résultats proclamés le 10 janvier par la CENI, l'opposant Félix Tshisekedi a remporté l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, tandis que le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, garderait une confortable majorité à l'Assemblée nationale, au moins 350 députés sur 500. L'autre opposant, Martin Fayoulou, revendique la victoire avec 61% des voix et il a saisi la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats définitifs d'ici à mardi 22 janvier, date prévue de la prestation de serment du nouveau président.
En République centrafricaine, nouvelle violence hier à Bambari, ville du centre du pays, où se sont déroulés d'intenses combats début janvier. C'est ce qu'a annoncé jeudi soir la MINUSCA, la mission onusienne sur place. Selon l'ONU, des miliciens de deux groupes armés alliés, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, et l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, ont tiré en direction de véhicules de la MINUSCA. Et les casques bleus ont répliqué à ces tirs. Au Zimbabwe, le pasteur Ivan Mawarire a réfuté hier devant la justice les accusations de subversion formulées contre lui pour son soutien à la fronde sociale secouant le pays depuis plusieurs jours. Les détails avec Raïssa Girondin.
Arrêté mercredi, le pasteur Mawarire a comparu devant un tribunal de Harare. Il est accusé d'incitation à la violence via les réseaux sociaux et de subversion. « Je n'ai absolument rien fait de ce que l'on me reproche », a plaidé le porte-drapeau de la révolte de 2016 en arrivant au palais de justice. Le Zimbabwe a été le théâtre de violentes manifestations contre la hausse des prix des carburants à la pompe, décrétée samedi par le gouvernement. À Harare, la capitale, et à Bulawayo, de nombreux commerces ont été pillés, des bâtiments et des voitures incendiés. Les autorités ont annoncé la mort de 3 personnes, dont un policier. Le ministre de la Sécurité, Owen Kube, a annoncé mercredi que plus de 600 personnes ont été arrêtées. Selon Dowa Mavinga de Human Rights Watch, depuis le début des troubles lundi, les gens sont cloîtrés chez eux, il n'y a pas de transport public, les écoles sont fermées et les gens manquent de nourriture.
Le Mozambique a demandé l'extradition de son ex-ministre des Finances, Manuel Chang, arrêté à Johannesburg en Afrique du Sud sur mandat de la justice américaine dans le cadre d'un vaste scandale de corruption. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le parquet sud-africain. La nouvelle demande d'extradition date du 10 janvier, selon une source judiciaire qui a requis l'anonymat. Aux États-Unis, Manuel Chang est accusé d'avoir touché 5 millions de dollars de pots de vin pour des prêts frauduleux à des entreprises publiques mozambicaines. Le parquet mozambicain qui a ouvert sa propre enquête sur cette affaire, dite de la dette cachée, avait révélé la semaine dernière le nom de 18 personnes impliquées financièrement dans le scandale, dont celui de M. Chang.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, a suspendu mercredi soir la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo après un nouvel appel déposé par le procureur de la Cour au lendemain de son acquittement. Une situation que dénonce Maître Marcel Sekaldi, l'un des avocats de l'ex-président Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé, ex-chef des jeunesses ivoiriennes. Au micro d'Irénée Herman Ongbo, Maître Marcel Sekaldi.
Dans tous les pays de droit, lorsque quelqu'un est acquitté, la personne est libre. Eh bien, voyez-vous, cette règle de droit, ce principe de droit, n'est pas appliqué à la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que malgré la décision d'acquittement rendue par la juridiction de jugement, qui a prononcé leur libération immédiate, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, Madame Bensouda, a la possibilité de maintenir ou de faire maintenir en détention la personne qui vient d'être acquittée. Je vous rappelle, pour mémoire, que Laurent Gbagbo est détenu depuis 2011, que l'enquête s'est déroulée durant 6 années. Ça signifie d'ailleurs que si l'enquête s'est déroulée 6 années, au moment où il a été arrêté et placé en détention, il n'y avait pas de preuve suffisante pour le mettre en prison. Que le procès lui-même a duré 2 années. Vous savez, ces délais de procédure sont contraires à toutes les règles du droit pénal. Le délai raisonnable, le procès équitable. Donc la Cour pénale internationale n'est pas une juridiction, c'est une cour qui fonctionne en vertu des règles qui lui sont propres et qui constitue une violation des règles internationales couramment admises.
Quelles sont les motivations du maintien de Charles Blé Goudé et de l'ancien président Laurent Gbagbo aujourd'hui ?
Mais le maintien, c'est que le tribunal a rendu sa décision et que le parquet, qui a le temps encore, qui a la possibilité de faire appel sur le fond, a demandé que lui soit communiqué par écrit la décision rendue par les juges.
À vous entendre, est-ce à dire que le droit appliqué à la Cour pénale internationale est contraire au droit international ?
Mais il est contraire au droit international. Et puis écoutez, il faut arrêter les hypocrisies. Est-ce que Mme Bensouda a enquêté sur les exactions commises par l'autre camp ? Jamais. Et vous appelez ça, vous, une justice impartiale ?
Est-ce que vous dénoncez ainsi une main visible qui serait derrière les réactions de...
Oui, il y a plusieurs choses. Plusieurs choses peuvent entrer en ligne de compte. Vous savez, la première chose, d'abord, c'est l'incompétence des gens. Ça, c'est la première chose. Ça, il ne faut pas l'écarter. Les gens peuvent être parfaitement incompétents. Et plus ils sont incompétents, d'ailleurs, plus ils sont infatués de leur puissance. Mais vous pouvez avoir, effectivement, des influences extérieures. Je vous rappelle le rôle joué par la France dans l'éviction de Laurent Gbagbo.
Maître Sekaldi, oui. À quoi peuvent s'attendre désormais vos clients ?
Moi, je pense tout simplement que la Cour d'appel les mettra en liberté. La Cour d'appel l'a fait d'ailleurs dans le dossier de Jean-Pierre Memba. Bon, bien, la Cour d'appel les mettra en liberté. La seule question qui se pose est de savoir si elle les mettra en liberté sous condition ou si elle les mettra en liberté purement et simplement, ce qui leur permettrait à ce moment-là de revenir en Côte d'Ivoire.
Maître Marcel Sekaldi, joint à Paris par Irénée Herman Ongbo. Violence au Mali, une quinzaine de djihadistes soupçonnés de préparer une attaque ont été tués le 10 janvier dans la région de Dialoubé, dans le centre du pays, par des frappes aériennes françaises. C'est ce qu'a annoncé l'état-major des armées françaises dans son point opérationnel hebdomadaire. Et puis en Libye, 10 personnes ont été tuées et 41 autres blessées, dont des femmes et des enfants, en 2 jours de combat entre milices rivales au sud de Tripoli, la capitale. Le point avec Ekia Badou.
De violents combats ont eu lieu hier à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale libyenne. La veille, des affrontements entre milices et un groupe armé appelé la 7e brigade avaient repris près de l'aéroport de Tripoli. Le ministre de la Santé, qui avait fait état de 5 morts et 20 blessés, a revu hier son bilan à la hausse à 10 morts et 41 blessés, dont des femmes et des enfants. Pourtant, la mission de l'ONU en Libye avait mis en garde mercredi contre toute violation de la trêve conclue en septembre. Entre fin août et début septembre, des combats entre les deux camps ont fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés. Les milices rivales s'adonnent à une lutte d'influence pour dominer la capitale et contrôler les institutions et les richesses du pays. Les principales milices de Tripoli se disent loyales au gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Le pays est divisé avec la présence dans l'Est d'une autorité rivale dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.
Et pour terminer, la prochaine élection présidentielle en Algérie se déroulera le 18 avril. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la présidence de la République. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.